Canal Académie. L'entretien de la semaine.
Bonnefoy a défendu toute sa vie une poésie ancrée dans la chair du monde. Une poésie qui se confronte à la réalité rugueuse plutôt qu'à une improbable surréalité. Ce poète majeur de la seconde moitié du XXe siècle, porté par le souci de saisir ce que la vie a d'immédiat, est entré en 2023 dans la bibliothèque de la Pléiade, 100 ans tout juste après sa naissance. Avant de décéder en 2016, il avait personnellement choisi le titre du volume « Œuvre poétique au pluriel ». Un pluriel à son image, car peu de poètes ont autant diversifié leur activité que lui. Traducteur, critique d'art et également éditeur, Yves Bonnefoy est un auteur inclassable dont l'œuvre a la réputation d'être exigeante et complexe. Pour nous aider à la saisir pleinement, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Patrick Labarthe, agrégé de lettres classiques et professeur émérite de littérature française à l'Université de Zurich. Patrick Labarthe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé à l'édition de ce volume de la Pléiade. Dedans, vous commentez certains textes d'Yves Bonnefoy. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez découvert ce poète ?
Oui, c'était à Toulouse, en 72 probablement. Je me souviens qu'il était venu faire une conférence. Et que connaissais-je d'Yves Bonnefoy à ce moment-là ? En fait, j'étais fasciné par la première page de l'arrière-pays, avec cette écriture tremblée de Bonnefoy, transcrivant la phrase de Plotin, des Énéades, au livre 5, « Nul n'y marcherait comme sur terre étrangère ». Et d'autre part, c'est, je crois, l'entrelac du texte, de la citation et du frontispice qui me retenait beaucoup, avec cette arche et cet ange, n'est-ce pas, c'est Adam et Ève chassés du paradis terrestre de Spanzotti. Et donc, il y avait une fascination pour, à la fois pour l'indication d'une approximation de la mémoire, parce qu'il dit dans cette phrase « je ne sais plus où j'ai trouvé cette phrase de Plotin », et le caractère tremblé de l'écriture. Donc tout cela me retenait beaucoup. J'ajouterai simplement l'image du carrefour qui me fascinait dès le début.
Je l'ai dit dans l'introduction, il est décédé donc en 2016. Il aurait fêté ses 100 ans cette année, en 2023. Mais quelques mots sur son enfance. Il vient d'une famille plutôt modeste. Sa mère était institutrice, son père ouvrier. Et alors qu'il a à peine 9 ans, sa marraine lui offre une anthologie de poèmes qu'elle signe à mon cher filleul, futur poète. Un geste assez prémonitoire, vu son jeune âge. Alors bien sûr, il faudra attendre quelques années avant qu'il signe ses premiers textes. Mais entre-temps, il va faire une autre lecture décisive, adolescent. Il va lire une autre anthologie de poésie que lui avait offert, non pas sa marraine, mais son professeur de philosophie. Est-ce que vous pourriez
Oui, en effet, vous évoquez la petite anthologie des poètes surréalistes de Georges Huniez. Mm-hmm. Et c'est là qu'il découvre tout un continent nouveau. S'en suivent les lectures des Pas perdus, du Point de jour, des poésies d'Éluard. Et ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que s'ouvre en quelque sorte avec le surréalisme le continent de l'onirisme, le continent du rêve. Alors il y a évidemment deux points d'achoppement, de résistance, notamment à partir de 1947, au moment du retour de Breton d'Amérique. C'est, je dirais, d'un côté l'écriture automatique, parce qu'il y a un besoin chez Bonnefoy de raison aussi, de conscience pleine. Et d'autre part, je crois que l'apparition d'Arcane 17, le primat de l'occultisme prôné par Breton dans ce texte, a provoqué en lui une résistance. Mais c'est évidemment une découverte très, très importante. Et je dois dire que l'admiration pour Breton s'est prolongée toute sa vie. En 2001, il fait paraître Breton à l'avant de soi. Il a toujours eu un profond respect, une profonde vénération pour Breton.
Même s'il s'est éloigné
tout à fait
du mouvement.
Mais d'ailleurs, ce qui est frappant chez Bonnefoy, c'est qu'il peut s'éloigner mais simultanément fortifier un lien amical qui se poursuit souterrainement. C'est le cas pour bien d'autres. Par exemple, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'a pas il n'est pas de pensée finalement qui lui soit d'une certaine façon plus étrangère que celle de Derrida, et il a tout fait pour le faire nommer au Collège de France.
Vous parliez à l'instant d'une résistance envers Breton, les surréalistes. Effectivement, il va, on l'a dit à l'instant, s'éloigner de ce mouvement-là et préférer se vouer à une autre écriture. Qu'est-ce qui ne l'a pas satisfait chez les surréalistes ?
Je le disais, je crois que c'est d'un côté l'écriture automatique. Même, enfin, il y a le Cœur-Espace, bien sûr, de 1945.
Sa première publication.
Oui, tout à fait, sa première publication. Mais l'œuvre, véritablement, enfin, commence, si j'ose dire, avec l'Anti-Platon. Donc, il y a cette résistance. Et puis, il y a aussi cette pensée de l'occultisme qui provoque en lui la plus grande résistance. Cela dit, il y a une fidélité. Le surréalisme ayant en quelque sorte ouvert grand les écluses de l'inconscient, il y a une fidélité à cette proposition majeure.
L'inconscient et le rêve aussi qui revient tout au long de son œuvre. Après cette première expérience surréaliste, il va construire sa propre conception de la poésie. Il va d'ailleurs publier beaucoup d'essais pour tenter d'expliquer comment il l'a construit, comment il conçoit son art poétique. On aborde un sujet assez complexe. Est-ce que vous pourriez, c'est une très vaste question, est-ce que vous pourriez définir, nous expliquer quelle est sa conception de son art poétique ? Tout à l'heure, vous parliez d'Anti-Platon. Peut-être que ça, c'est une première piste pour le définir.
C'est peut-être pas par l'Anti-Platon que je vais commencer. C'est plutôt par le texte qui figure d'ailleurs dans le Pléiade. On reparlera peut-être de cet entrelac des œuvres poétiques et des essais, enfin si vous le souhaitez. Mais ce sont les tombeaux de Ravenne. C'est l'affirmation à propos de cette ville des sarcophages de ce qu'il appelle un principe de sépulture, c'est-à-dire ce qui déjoue en quelque sorte le général. Ce qui déjoue le concept et donc ce qui avoue le primat du corruptible, du néant. Selon un poète grand lecteur de Mallarmé et qui considère les religions qu'il fascine, mais comme autant de fictions fascinantes. Il me semble que, du coup, la poésie se pense d'emblée, je ne crois pas, me tromper comme une sorte de conversion du regard. Il s'agit de se convertir à une profondeur et une énigme de l'apparence sensible, d'où cette notion de présence.
qui est très importante.
Qui est très importante, oui, mais comme il dit, c'est une notion déserte de tout sens au regard de l'esprit conceptuel, parce qu'il n'y a pas de concept de la feuille brisée ou salie, il n'y a pas de concept du cri, il n'y a pas de concept de l'impression que fait une maison vide, comme il le dit, n'est-ce pas ? Donc ça, je crois que c'est un point de départ absolument fondamental, auquel il restera fidèle, bien sûr, qu'il approfondira toujours plus.
Effectivement, il se méfie énormément du concept pour promouvoir plutôt à la place l'objet sensible qui s'en distingue.
Oui, je ne sais pas si c'est l'objet, parce que l'objet implique une distance, mais la chose, en tout cas, dans son énigme, et donc tout ce qui excède, en quelque sorte, le signe, la poésie, et dont la poésie a soif, dans un monde en cela moderne, qui est vide de la caution divine.
Vous avez parlé aussi de présence à l'instant. Oui. Effectivement, il disait « Les mots poétiques doivent ranimer notre présence au monde ». Et effectivement, les mots chez Yves Bonnefoy ont une puissance d'évocation très importante. Oui. Parmi eux, on en retrouve certains dans ses poèmes, comme « l'aube »,« l'eau », »,« le feu », »,« le froid », »,« le jour », oui. »,« le pain », »,« le sang ». Qu'est-ce que tous ces mots sont censés provoquer en nous ?
Mais ces mots sont en quelque sorte délestés de tout ce qu'ils peuvent comporter de stéréotypes, mais le devoir poétique étant en quelque sorte de ranimer leur plein sens dans ces mots les plus simples, qui implique une relation plus vraie à soi comme aux autres. Et donc, je crois que il dit à propos de la présence, cela est brut comme le vent, cela est noir comme l'abîme, c'est dans l'acte et le lieu de la poésie, et pourtant cela rassure. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire il s'agit de donner un sens à ce qui est. Et il s'agit, si je comprends bien, de réinventer un espoir, comme il le dit d'emblée, et d'appeler à un autre rapport à soi comme aux autres, un rapport fait de plus de lucidité. C'est un mot qu'il prononce beaucoup à propos d'un Rimbaud, par exemple.
Ouais. En 1953, il publie un recueil de poésie important qui a tout de suite été adoubé par la critique. Ce recueil, oui. C'est « Du mouvement et de l'immobilité de Douve », donc un titre tout en oxymore et qui est très mystérieux. Qui est Douve exactement et plus largement, de quoi parle le recueil ?
À vous poser une question très délicate. Douve, c'est un nom féminin. Fortement érotisé, on le voit bien dans la section théâtre, où il y a une violence de l'éros, une sauvagerie inouïe, et d'ailleurs. Ça, je crois que c'est trop peu souligné, du reste. Et c'est, au fond, une figure qui est apostrophée, qui est invoquée, qui est célébrée. Un Maurice Sayé, auquel il a été très lié, disait que ce nom est doux et lourd. En fait, c'est une case vide, comme l'a dit Bonnefoy. C'est-à-dire, c'est un nom vide de toute désignation particulière. Il dit cela dans un entretien. Donc, je dirais que c'est la réalité en ce qu'elle excède toute représentation. Voilà. Et le du mouvement et de l'immobilité de Douve, au fond, c'est un théâtre où s'affrontent, au fond, d'un côté, le risque du figement, de l'immobilité, et de l'autre, tout le dynamisme des métamorphoses. Et ce drame, vous remarquerez qu'il est architecturé en 5 parties, comme les actes d'une tragédie, véritablement.
Je le disais, c'est un titre donc, tout en oxymore et tout au long du poème, il utilise beaucoup d'oppositions. Et il me semble qu'il a écrit à la fois en vers et en prose. Est-ce que ça avait une importance chez lui ? Est-ce qu'il avait plus recours au vers, à la prose, et mélangeait complètement les deux ?
Je crois que le vers n'est pas pensable sans la prose, et la prose n'est pas pensable sans le vers. Mmh. C'est-à-dire que, comme il le dit tardivement d'ailleurs, c'est une expression qui apparaît tardivement, pour mieux comprendre, mais qui est obstinément répétée après, la prose autorise une sorte de maturation de ce qui se joue dans le vers, et autrement dit, des leurres, comme il aime à dire, des illusions qui peuvent encombrer la conscience et qui peuvent opacifier le regard. Donc l'un ne va jamais sans l'autre. D'où d'ailleurs le choix qui est fait dans l'édition Pléiade, à la fois de bien sûr, ce sont les œuvres poétiques, mais il y a des proses qui aident à mieux saisir ce qui se joue dans le vers, et réciproquement, la prose n'est pas lisible, n'est pas pensable sans l'appoint, en quelque sorte, de l'œuvre versifiée.
Les deux sont indissociables.
Oui. Et un travail, autrement dit, de maturation qui s'opère par la prose.
La conception qui partage de l'art poétique s'oppose à celle d'un autre poète, Paul Valéry, qui était un poète qui accordait beaucoup d'importance à la forme esthétique, à la beauté. Dans un article, Yves Bonnefoy a affirmé assez hardiment qu'il fallait oublier Paul Valéry. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
Alors, le rapport à Valéry est vraiment complexe. D'abord, ce qui frappe, c'est que Bonnefoy lit Valéry dès 39, dans le train du soir qui le ramenait de Tours à Saint-Martin-le-Beau, où sa mère était institutrice, il lisait Valéry, il le dit. C'est dans les années quand même 39, voyez. Il achète les petits livres dans la librairie de la gare de Tours. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'un de ses grands amis, on le sait moins peut-être, un de ses grands amis américains, Jackson Matthews, était le traducteur. Un américain de Valéry, il était vice-président de la Bollingen Foundation, et il y a une très grande affection entre les deux. Enfin, Valéry, finalement, est présent d'un bout à l'autre. Pourquoi ? Peut-être parce que, tout simplement, un Valéry existe en bonne foi. Et que c'est l'un des pôles intérieurs d'un choix fondamental, je dirais, entre l'immédiateté sensible et puis, disons, la recherche, la quête d'une représentation de l'activité de l'esprit comme plus réelle parce que plus claire. Voilà. Dans une écriture de notre temps, il me semble, c'est le texte, vous savez, qu'il consacre à Louis-René Desforest en 84, et qui se trouve dans La vérité de parole, il dit que de Monsieur Test, qui est le parangon de ce souci, en quelque sorte, d'une géométrisation de l'esprit, eh bien, Monsieur Test est peut-être plus bavard que ne l'est le bavard de Louis-René Desforest. Bon. Il y a, je crois, au fond, c'est un combat intérieur. D'ailleurs, en termes formels, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'exclusion de la prose comme langage ordinaire par Valéry, vous voyez, au profit de ce point solaire que serait le vers. Je crois que, d'une certaine façon, il a dialogué plus qu'on ne croit. Il y a tout de même aussi, là vous citez, il faut oublier Valéry, vous citez le texte de l'improbable, mais il y a un très grand texte en 95 au colloque Valéry, Mallarmé et Valéry, qu'il faut ajouter. Puis il y a un entretien sur Valéry dans l'inachevable. Donc voilà, je crois que c'est un combat, c'est l'une des figures centrales d'un combat intérieur.
Voilà. Un peu comme avec André Breton, il ne l'a jamais quitté oui. toute sa vie, même s'il avait pris quelques distances oui. avec lui.
Oui. Alors le premier texte est évidemment très sévère, mais cette sévérité est l'indice d'une prise au sérieux extrêmement profonde.
Pour continuer à tenter de comprendre oui. la poésie d'Yves Bonnefoy, je voulais aborder un autre aspect, toujours sur sa poésie. La poésie qu'il conçoit n'est pas une bulle introspective qui serait coupée du monde. Il dit, encore une fois, une phrase importante, la poésie, c'est reconquérir la présence de l'autre. Elle sert à se reconnecter à l'autre.
Oui.
Ça, c'est une dimension fondamentale dans son œuvre.
Oui.
En fait, il associe la poésie presque à une idée d'organisation en société, de bien commun tourné oui. vers les autres. Est-ce qu'on pourrait dire que cette poésie très altruiste aurait presque une dimension politique, politique au sens primaire du mot, c'est-à-dire organisation de la cité, des relations entre les citoyens?
Je crois que vous avez raison. Si elle est bien comprise, on ne peut qu'y lire aussi une dimension politique, puisque, au fond, la poésie n'est pas le moyen de rêver d'autre monde, pour Bonnefoy. Elle est le moyen de creuser l'énigme de celui-ci et de débarrasser le regard de tous les stéréotypes, les dogmatismes, les orthodoxies qui l'encombrent. Du coup, ce qui est véritablement substantiel à ses yeux, eh bien, c'est le corps souffrant, c'est le remords d'avoir oublié, comme chez Baudelaire, c'est le vieillissement, c'est la lumière du soir, c'est l'ici et le maintenant, comme il aime à dire, de tel être ou de telle chose. Au fond, dans la mesure où la parole peut se figer à tout moment en dogmatisme, en fable aveugle, donc brutale, en tout cas virtuellement brutale, il y a une perspective politique. La poésie est porteuse de l'espoir de refonder une sorte de solidarité entre les êtres dans la barque humaine, en quelque sorte. Et donc, il me semble que la poésie appelle à un au-delà ou un en-deçà de la violence des stéréotypes pour une rénovation collective qui serait une vraie maturation et la refondation d'une société au sens vrai du terme, au sens étymologique du terme, faire d'autrui son allié de la façon la plus honnête, la plus vraie.
Après la théorie, place à la pratique et à la douceur. Vous allez nous lire, Patrick Labarthe, quelques extraits de poèmes d'Yves Bonnefoy.
Je prends un sonnet qui se trouve dans L'heure présente. Il s'intitule, enfin, le titre en est « Je te donne ces vers ». Voilà, c'est un sonnet d'Horatiu Reutre qui paraît en 2010 et qui est repris dans L'heure présente. Et pourquoi l'ai-je choisi ? Parce que c'est le lieu d'un dialogue, je crois, entre deux figures absolument majeures du débat intérieur de Bonnefoy, Baudelaire et Mallarmé. Alors, je vais lire et puis j'en dirai un mot après si vous souhaitez. « Je te donne ces vers, non parce que ton nom puisse jamais fleurir dans ce sol pauvre, mais parce que tenter de se souvenir, ce sont des fleurs coupées, ce qui a du sens. D'aucuns disent, perdus dans leur rêve, une fleur. Mais c'est ne pas savoir que les mots tranchent, s'ils croient le désigner dans ce qu'ils nomment, transmutant toute fleur en idée de fleur. Cisaillée, la vraie fleur se fait métaphore. Cette sève qui coule, c'est le temps qui achève de se déprendre de son rêve. Qui veut avoir parfois la visite se doit d'aimer dans un bouquet qu'il n'est qu'une heure. La beauté n'est offrande qu'à ce prix. » Je trouve que c'est un magnifique sonnet. Pourquoi ? Parce qu'il commence avec une citation de Baudelaire, « Je te donne ces vers ». C'est le début du poème 39 des Fleurs du Mal. « Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement au rivage lointain ». Un poème donc qui chez Baudelaire semble immortaliser l'être aimé, selon la tradition ronsardienne, selon la tradition de la Renaissance. Sauf que chez Baudelaire, il y a ironisation immédiate et un geste sadique à l'endroit de cette présomption. Mais ce qui frappe, c'est que après Baudelaire, ce qui apparaît très vite, c'est Mallarmé. Au deuxième quatrain, vous avez une fleur. C'est évidemment pourquoi entre guillemets, parce que c'est une citation de Crise de Verre. Je dis une fleur et se lève et musicalement se lève. Je tronque la citation, l'absente de tout bouquet. Et puis, vous avez une deuxième référence à Mallarmé, lorsqu'il est question de la visite au deuxième tercet, qui veut avoir parfois la visite, se doit d'aimer dans un bouquet qu'il n'est qu'une heure. La visite renvoie, me semble-t-il, au poème extraordinaire de Mallarmé, envoyé le 2 novembre 1877, si je me souviens bien, à Gaston Maspero, l'égyptologue, qui avait perdu en 73 son épouse Etiyap. Et le poème est dédié sur les bois oubliés quand passe l'hiver sombre. C'est un sonnet qui véritablement retient en profondeur Bonnefoy, puisque il en reprend les termes, les gloses, les métamorphoses même en maison dans une autre époque de l'écriture. Bon. Et donc, dans le poème de Mallarmé, c'est une prosopopée, c'est la morte qui prend la parole et qui dit à son époux que les bouquets sont inutiles, qu'ils encombrent la tombe, mais qu'il suffit qu'il veuille bien murmurer le souffle de son nom, murmurer tout un soir, donc, dans les 12 syllabes d'un alexandrin. Il me semble que chez Bonnefoy, à la fiction d'une fleur hors de l'illusion référentielle, disons au murmure d'un alexandrin égrené tout un soir, qui serait l'absolu de la poésie, eh bien, il répond par l'accès du réel à sa nomination. Et cela, vous le remarquerez sous le signe de l'entaille. Les mots tranchent. Les fleurs sont coupées. La vraie fleur est cisaillée. Donc, ce bouquet d'une heure ouvre à la conscience de l'autre comme fondement du réel.
Est-ce qu'il aimait lire, comme vous venez de le faire, ses poèmes à voix haute? Est-ce qu'il aimait les partager, les déclamer au grand public?
Tout à fait. Déclamer n'est pas le mot qu'il est. Il me semble, il y a quelque chose d'oraculaire dans le premier Bonnefoy, dans les premiers recueils. On est dans l'ordre de la profération et le registre se transforme à partir de Don le leurre du seuil, je dirais. Enfin, Don le leurre du seuil et puis Ce qui fut sans lumière. C'est vraiment un pivot fondamental. Où là, on a une sorte de discours méditatif, de poésie méditative. Bon. Mais la lecture a toujours fait partie, je crois, des moments de rencontre essentiels pour Bonnefoy. Tout simplement, un peu par ce souci aussi que vous disiez tout à l'heure, que vous appeliez politique, mais il s'agit bien de réveiller en chacun une source enfouie, un appel en quelque sorte. Et ces lectures étaient le lieu de ce réveil virtuel, de cette rencontre avec l'autre. Donc je crois que c'est vraiment essentiel que le geste de la récitation, de la lecture de poèmes, par Bonnefoy lui-même.
Je voulais également aborder la dimension autobiographique de son œuvre. Il l'évoque assez tard dans sa vie, mmh. et il en retient surtout ses vacances passées dans le Lot, dans la maison des grands-parents paternels. Mmh. Pour lui, l'enfance, c'est lui qui l'explique, elle est au fondement de l'expérience poétique. Il en parle, vous l'avez cité au début de l'émission, L'arrière-pays, qu'il a publié en 1972.
Oui.
Et aussi dans L'écharpe rouge. L'écharpe rouge, c'est un de ses derniers récits.
Oui.
C'est un texte donc tardif, mais qui n'en est pas moins important. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette écharpe rouge?
Alors, L'écharpe rouge, c'est un texte extraordinaire, aussi important que L'arrière-pays, du reste inséparable d'une certaine façon. Cette écharpe, elle est métaphorique du sang de la filiation, elle est teinte du sang de la filiation. C'est donc un livre, un exercice d'anamnèse, certainement le plus profond, le plus opiniâtre qu'ait mené Bonnefoy. Mais enfin, immédiatement, d'autres textes me viennent à l'esprit. Il s'agit de mieux comprendre la genèse de sa vocation poétique. Et il tente de la comprendre, je dirais, d'une façon baudelairienne, c'est-à-dire en... il aimait beaucoup l'expression de Baudelaire sur les années profondes qu'on trouve dans les paradis artificiels, c'est-à-dire c'est dans les profondeurs de l'enfance que se dessinent les élans majeurs, en quelque sorte, de l'être au monde. Et c'est dans le rapport aux parents, le rapport des parents entre eux, tel que le fils a pu les vivre, les voir et les repenser avec un regard rétrospectif, qu'il réfléchit à l'énigme de sa vocation.
Il se définissait comme un poète inquiet. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, par cette expression?
Je crois qu'il n'est pas de poésie à ses yeux sans inquiétude. Si il s'agit à tout moment de traquer en quelque sorte ce qui est de l'ordre de l'illusion, du leurre, du déni, eh bien, il n'est pas d'autre attitude que une sorte d'inquiétude qui est au cœur du projet poétique. L'inquiétude est en quelque sorte le nerf d'une maturation. Sans inquiétude, il y a tout de suite figement dans de fausses certitudes ou dans des présomptions, des vanités diverses.
Il avait la réputation d'être difficile, complexe. Enfin, son œuvre avait la réputation d'être difficile et complexe. Il a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup d'essais sur la poésie. Comment est-ce qu'on pourrait aborder son œuvre? Parce qu'il y a plein de manières de le lire. On peut, par exemple, commencer chronologiquement. C'est ce qui a été fait dans ce volume de la Pléiade. Est-ce que c'est la meilleure manière d'aborder son œuvre?
Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure manière, mais je trouve que le choix d'une continuité chronologique offre une chance de lecture qui est nouvelle, en ce sens que on perçoit à chaque étape, par exemple, le battement, effectivement, d'abord on a l'ensemble de l'œuvre poétique, mais on perçoit le battement entre le vers et la prose, et on perçoit, me semble-t-il, que c'est une œuvre d'une extrême cohérence, mais dont la diversité. Il ne faut pas oublier la diversité. Certains lecteurs se sont peut-être arrêtés aux quatre premiers livres à la parution de 78, mais il y a constamment une réinvention des formes. Par exemple, il invente cette forme absolument majeure dans l'ordre de la prose qu'est le récit en rêve. D'autre part, il y a une réinvention du sonnet. Il repense aussi le sonnet à la lumière de ses traductions de Shakespeare, de Pétrarque.
Bon. Parce qu'il était traducteur.
Tout à fait, traducteur qu'il était, et comment, si grand traducteur. Et donc, mais voyez, il y a une réinvention jusqu'à la fin, les stichomyti, par exemple, de la Grande Ourse. Il y a un renouvellement dans la continuité. Et je crois que l'édition chronologique permet de mieux le percevoir, d'en avoir une plus nette conscience.
Ces textes figurent aujourd'hui au baccalauréat. Comment sont-ils accueillis par les étudiants? Est-ce qu'ils paniquent devant ces textes? Ils sont curieux? Comment ils réagissent?
Alors, je n'ai plus d'étudiants du secondaire, je suis resté très longtemps, mais ce que je peux dire sur les étudiants de Zurich, c'est que je les ai effectivement confrontés à la lecture des planches courbes, en commençant d'ailleurs par la parabole en prose, les planches courbes, qui est une merveille. Et au fond, oui, un poète exigeant, un poète difficile, mais en même temps, il y a aussi une forme de limpidité, pour peu qu'on regarde avec sérieux, avec gravité, ce qui se joue dans le texte, et les contradictions aussi, les ambiguïtés profondes. Voilà. Donc, je pense que c'est très formateur de confronter les étudiants à ces poèmes.
Est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui, des successeurs dans la poésie contemporaine?
Je ne sais comment vous répondre. Je connais, au fond, plutôt ceux qui ont été de sa génération. Donc là, c'est plutôt, j'avoue, une ignorance de ma part. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne peut pas laisser indifférent. Il fascine, il peut déterminer, effectivement, aussi des positions plus, des résistances. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il a beaucoup d'influence sur les peintres et sur des peintres figuratifs qui, justement, reviennent à l'énigme des plus simples choses. Et évidemment, ça n'est pas une peinture qui est aujourd'hui, suffisamment célébrée, mais elle existe. Et il y a nombre de peintres d'un immense talent, au fond, qui ont puisé dans l'œuvre de Bonnefoy de quoi avancer.
Et lui-même s'est beaucoup intéressé aux peintres. Enfin, il a été critique d'art et a écrit énormément
sur... Un savoir d'historien de l'art tout à fait impressionnant.
Pour terminer, Patrick Labarthe, quelques mots sur la place de la poésie aujourd'hui dans notre société. Yves Bonnefoy avait l'air de dire qu'on avait tendance à l'oublier, qu'elle était reléguée au second plan. Est-ce qu'elle a disparu?
Je crois que Bonnefoy est moins... je ne pense pas trop me tromper. Je crois que Bonnefoy avait moins souci de son œuvre propre que du destin de la poésie. En des sociétés qui sont acquises, vous le voyez bien, à la violence néolibérale, c'est-à-dire avec ses étendards, quantité, concurrence, sauvagerie du marché, etc. Bien sûr qu'on ne lui accorde pas la place qu'il mérite, c'est évident, elle devrait être première. Mais Baudelaire est le premier à avoir intériorisé cette vérité, c'est que le soleil de la poésie est un soleil du soir. est un soleil du crépuscule. C'est un soleil moribond. Et je cite Fusée 15, « Le monde va finir, dit-il, il va se déliter, en quelque sorte, plutôt par la faute d'un avilissement des cœurs et des esprits », explique Baudelaire dans Fusée. Alors, quel est l'important ? Je crois qu'il y a là une vérité profonde. L'important, c'est cette lampe ardente qu'est l'œuvre de Bonnefoy et l'être qu'il fut aussi. Et donc, il faut que l'entretienne des esprits sérieux, des esprits inquiets, justement, et qui ont, comme dit Marcel Raymond, le sens de la qualité. Plus que jamais, il est indispensable de le lire et de l'étudier, de le faire reconnaître aux étudiants. C'est certain.
Il y a donc encore une lueur d'espoir. Un grand merci, Patrick Labarthe.
C'est moi qui vous remercie.
De nous avoir introduit à l'œuvre d'Yves Bonnefoy, un poète à découvrir ou à redécouvrir dans la Pléiade depuis cette année. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Œuvre poétique au pluriel », une édition donc à laquelle vous avez participé, Patrick Labarthe. Un grand merci à vous.
Grand merci à vous aussi.
Canal Académie.